Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'année se termine pour beaucoup, presque, et l'été, sa longue trêve pointe à l'horizon, l'occasion de faire le plein de bonnes idées de lecture déjà fait dans Vivante Église vendredi dernier, mais aussi de films, ou plutôt de VOD ou de DVD pour vivre la magie du 7e art à domicile. Alors pour vous, nous avons sélectionné dans les sorties de cette année quelques beaux films à voir seul, en couple ou en famille. Bon été! Ces films de cette année qui ont du sens, c'est donc le thème choisi pour cette dernière émission en direct de la saison 2018-2019. Autour du plateau, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel.
Et Gérard Dastug, donc maître de conférence à la faculté des lettres de l'Institut catholique de Toulouse, et vous êtes enseignant en filmologie. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et bien content de vous accueillir. Merci. Ce n'est donc pas Paul Dima, puisque la saison du grand écran est finie, mais on s'est dit qu'on allait rajouter une séquence cinéma pour quelques-uns des films qui ont marqué un petit peu l'affiche de l'année. Et on va commencer donc par Lourdes. Alors Lourdes, on va dire au menu, il y a Lourdes, qui vient de sortir et qui est encore à l'affiche. Il y a Green Book qui était sorti à l'automne.
Au tout début de l'année.
Et donc il y a le film La Voix du Pardon qui est encore peut-être dans certaines salles.
Oui.
Qui est encore dans certaines salles.
Et qui est sorti il y a peu de temps, au mois de mai.
Et qui est sorti en France il y a peu de temps. On va commencer donc avec Lourdes et comme d'habitude en écoutant d'abord la bande-annonce.
Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse.
Seigneur, j'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto.
Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin.
Donc demain matin, tu te rappelles, on se lève à 6 heures.
Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route n'a pas été trop longue?
Non.
Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans.
À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau de Dieu ici. Pour ça, je prends un bidon à chaque fois.
J'accompagne un groupe un peu particulier. C'est des personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans, on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau.
On m'a envoyé un truc là, une apparition de la sainte.
La sainte qui a apparu à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue.
Comme on arrive à Lourdes, là, on a l'impression que la Vierge Marie, elle nous console. Comme une maman console ses enfants.
Quand on a la foi, on dépasse les montagnes.
Voilà Lourdes, donc Lourdes de Thierry Desmaizières et de Alban Turley. L'histoire, en fait, c'est vraiment un film, Louis-Marie, ou c'est un film documentaire? Je confesse que je ne l'ai pas vu.
C'est un film documentaire.
Un film documentaire qui va à Lourdes, qui plante la caméra là-bas et qui montre, donc, la, on va dire, pas forcément la dévotion, ce qui se passe peut-être plus côté humain. Ces millions de pèlerins, évidemment, surtout, en grande partie, ces malades qui passent à Lourdes.
Et oui, et qui attendent beaucoup de Marie. C'est ça, l'affiche du film est assez éloquente là-dessus. Quand on ne connaît pas bien le film, on se demande pourquoi ils ont choisi cette affiche, qui est un peu, peut paraître un peu obscure, mais en fait, c'est la roche qui est devenue tellement polie à force de la toucher. Il y a une main dessus, d'ailleurs, sur l'affiche, et c'est tout à fait ça. Desmaizières et Turley sont allés là-bas, ils avouent qu'ils sont athées, ils ont voulu s'intéresser à ces pèlerins et les raisons qui les motivent, et ils les ont suivis. Et ils les ont suivis, et c'est...
Est-ce qu'il y a une histoire ? Est-ce qu'il y a un fil rouge ?
Il y a un fil rouge, forcément, parce qu'on va retrouver des personnages, en fait, des personnages qui viennent, des gens qui viennent là, qu'on a entendus dans la bande-annonce, qui viennent en pèlerinage. Alors, il y aura le militaire en uniforme, qui vient avec son tout jeune fils, et ils sont là, tous les deux, pour adoucir les derniers jours de l'autre garçon qui est plus petit et qui est condamné. Donc ils sont venus tous les deux. Et le petit garçon est vraiment un petit gars. Il a 5-6 ans et son papa est très grand et lui est en uniforme. Et le petit gars, il est habillé de façon assez élégante, très stricte, avec une veste et... Tous les deux sont très touchants. Et puis il y a ce chef d'entreprise qui a la maladie de Charcot, qui ne bouge plus, presque plus, et qui vient là et qui maintenant est apaisé. Sa mort est proche et il est parfaitement apaisé. Puis on a aussi entendu dans la bande-annonce ce prêtre qui dit qu'il vient avec un groupe de prostituées.
Voilà, qui est relativement connu, son nom m'échappe, mais oui, qui est un frère de Saint-Jean.
Parmi eux, il y a un travesti. Qui lui aussi, il ne rêve que d'une fin, une fin de vie paisible. Voilà, c'est tout ce dont il a besoin. Et on est entre... et puis il y a un autre personnage aussi qui est formidable, qui a fait... Jean-Louis, lui, il a fait une tentative de suicide et il a perdu l'usage de la parole et de la mobilité. Mais il n'a pas le sens de... Mais pas perdu le sens de l'humour. Et ça, c'est assez savoureux. Les relations, justement, entre cette façon de communiquer entre lui et un jeune prêtre. Et il y a des moments qui sont drôles et qui sont à ce moment-là très bienvenus.
Alors, les critiques, comme on fait à chaque fois, le magazine Elle, on ne le cite pas souvent, la caméra est soucieuse de préserver la dignité de ces hommes et de ces femmes. Lourdes n'est alors plus qu'un berceau d'humanité et nous, spectateurs, sommes submergés par l'émotion. Le journal du dimanche, l'enquête passionnante et bouleversante alterne les confessions courageuses, dignes et pudiques de ces individus de toutes catégories. Bref, beaucoup de satisfaits, il faut aller chercher du côté du journal Le Monde ou de l'Humanité pour trouver des critiques. C'est un film qui connaît un succès réel. Je crois que sa projection a été prolongée. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça le comble.
Il ne bénéficie pas d'une distribution traditionnelle où on ne va pas pouvoir, comme la plupart des films, aller dans une salle et le trouver à différentes heures de la journée. Une ou deux heures, ça dépend effectivement du public qui l'attire. Lui, non. Alors, il peut être à l'affiche un jour dans un cinéma et dans ce même cinéma, ne pas l'être le lendemain et l'être le surlendemain. Vous allez venir en début d'après-midi et à ce moment-là, vous aurez la chance de le voir. Et puis, deux jours plus tard, il sera programmé le soir. Il a une programmation un peu particulière.
En tout cas, un succès inattendu.
Il est effectivement, chaque fois, les salles sont pleines.
Alors, il a été réalisé par Thierry Desmézières et Alban Torlet. Ça vaut le coup de dire un mot. On l'avait fait dans une précédente émission. Thierry Desmézières, c'est
un... On s'était un peu disputé.
Un portraitiste télé qui a longtemps travaillé pour 7 à 8 pour TF1 et qui a quitté donc TF1 et qui maintenant réalise des portraits, des documentaires. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus de lui, Thierry Desmézières, et sur son compère et vraiment l'art de faire des portraits, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et c'est surtout des portraits de comédiens ou de couturiers célèbres. Et là, peut-être, c'est ce qui fait aussi la grande réussite du film, c'est qu'ils l'ont traité comme un portrait. Donc ils ont voulu montrer ce qu'était cet endroit et surtout ce qui est représenté aux gens. Et c'est la première fois qu'un documentaire sur Lourdes s'intéresse aux pèlerins et leurs accompagnateurs. Jusqu'à présent, on s'intéressait juste aux lieux. Alors souvent il y avait eu des...
Ou à l'histoire des apparitions.
Voilà, ou aussi des documentaires pour tous les marchands du temple qui sont là. Et là, pour une fois, c'est sur les gens qui viennent qu'on se concentre. Et c'est plutôt adroit. Et c'est fait sans lourdeur. Les scènes sont plutôt délicates. C'est bienvenu. On voit ces jeunes gens qui accompagnent les pèlerins. On se demande pourquoi ils sont là, parce qu'ils gagnent rien. Ben, ils sont là pour eux, pour ce sentiment, pour se grandir. Et ils l'acceptent.
Gérard Astug, vous ne l'avez pas vu non plus. Oui, c'est bien, on plaide coupable. Mais qu'est-ce que vous en avez entendu, en tout cas?
Alors, j'en ai entendu, c'est que un petit peu comme pour la Voix du Pardon, hein, dont on parlera un peu plus tard, c'est vrai que ce sont des films qui sont distribués d'une manière un petit peu atypique. On le verra, La Voix du Pardon, ce sont des films qui gagnent un spectatorat chaque semaine et qui voient un développement de leur parc de salles. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous disiez, dans ce que l'on a pu entendre dans la bande-annonce, c'est que le film s'intitule Lourdes, et effectivement, ça ne parle pas du lieu. Cela parle des pèlerins, cela parle des gens, cela parle des humains. Mais le film s'affiche par rapport au lieu. Donc on est aussi sur une question de représentation. C'est-à-dire comment ce lieu se représente, je dirais, résonne, se fait écho en chacun de ces personnes qui sont finalement, en termes, on va dire, narratifs, sont des personnages. Ils sont des personnages de chair, d'esprit, de respiration. Et puis, finalement, comment Lourdes apparaît à ces gens-là, à travers l'affiche. L'affiche, c'est presque la première, c'est comme la couverture d'un roman, vous savez, on ne savait pas de quoi ça parle. Avant de lire le quatrième de couverture, on a d'abord la couverture. Là, on a l'affiche, on ne sait pas de quoi on parle, et puis là, on a une roche qui est polie par l'humain. La dernière fois que l'homme a poli de la roche, c'est lorsqu'il a évolué, il est devenu sapiens, il a acquis la connaissance. Là, on est aussi sur une question, par la représentation que l'on va donner à un spectateur qui serait intéressé, soucieux de découvrir un documentaire sur Lourdes, on lui apporte une image différente, c'est-à-dire une forme de, je dirais pas de réflexion, mais de caresse, de douceur. Et ça lance un signal au spectateur sur aussi le traitement. Finalement, c'est le portrait d'un lieu à travers un portrait communautaire de plusieurs portraits individuels.
Et puis un portrait assez charnel, hein. Il y a une place importante, semble-t-il, laissée au corps. Enfin, on voit, on va dire, le corps des malades. Il n'est pas caché. La tendresse aussi des personnes qui l'accompagnent. C'est ce que j'ai vu en tout cas dans une interview de Thierry Desmaizières et Alban Turley. C'est au Figaro Vox. Ils insistent là-dessus.
C'est une mise à nu au sens propre et au sens figuré de tous ces pèlerins. La mise à nu au sens propre, évidemment, ben, quand ils entrent dans les piscines, ben,
qui sont des lieux donc à Lourdes où on se plonge pour
l'eau.
Un temps de prière, de purification, voire de demande de guérison.
Et puis après, ils parlent d'eux. Et ce qui est beau aussi, j'ai déjà abordé, c'est la solidarité qui existe entre tous ces pèlerins. Et le chef d'entreprise là, qui a la maladie de Charcot, pour qu'il puisse rentrer dans ces piscines, il y a besoin de 8 personnes. Il y a 8 personnes pour le faire rentrer dans l'eau. Pas moins, parce que c'est pas possible autrement, étant donné qu'il est complètement coincé, il peut plus bouger, rien du tout. Et ça, c'est formidable, comme je le disais précédemment, et je vais me répéter, le fait qu'il y ait ces jeunes gens qui accompagnent ces pèlerins qui viennent là pour eux, pour se sauver, pour trouver du réconfort, pour changer leur vie. Et tout ça, c'est ce qui est touchant, et c'est cette façon, comme le disait Gérard Astug, que... cette façon de montrer, de faire le portrait de cet endroit, de ce lieu et de ces gens, comme le pèlerinage aussi, on voit à un moment le pèlerinage des Gitans, c'est assez extraordinaire. Il y a une ferveur, rien qu'à eux tous, ils ont poli la roche pour 1000 ans, quoi.
Dernière question avant qu'on fasse une première pause musicale. Est-ce que, on va dire, ce film, c'est aussi un peu le symptôme justement d'un... je ne sais pas si c'est un genre, mais de films, on en a choisi 3 et on aurait pu peut-être en trouver d'autres au long des dernières années. Des films qui posent la question du sens de la vie, qui ont une thématique religieuse, qui parlent indirectement de Dieu et qui ne sont pas forcément des films faits par des chrétiens convaincus. Est-ce que on voit émerger ça, Gérard Astug, dans le cinéma français ?
Alors, on voit émerger ça un petit peu partout. Le cinéma français n'est pas en reste. Je pense aussi, vous savez, rien n'émerge sans qu'il y ait une demande à un moment donné. Les choses qui apparaissent, Deus Ex Machina, je pense que ça n'existe pas vraiment. Donc, on doit sentir dans l'air du temps un besoin de retour à une forme d'humanité, à un humanisme, à remettre l'humain au centre. Et puis, vous savez...
Et à poser des questions spirituelles.
Et à poser des questions spirituelles, parce que, vous savez, on est là, on parle de cinéma, mais c'est aussi l'expérience de la salle de cinéma. Aujourd'hui, regardez, chez soi, on peut avoir une expérience de visionnage de films formidable, avec des grands écrans, un son extraordinaire, etc. Pourtant, les gens continuent d'aller au cinéma, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition. C'est-à-dire qu'ils ont le besoin de retrouver cet élan presque communautaire, de s'enfermer dans un lieu sombre avec des gens qu'on ne connaît pas, qui font la même chose que vous, pour partager quelque chose qui s'offre qui s'offre à nous. Donc ça aussi, c'est ce besoin-là de partage. Et je pense que dans une société qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus parfois intolérante, de plus en plus abrupte, ce besoin de sens, ce besoin de spiritualité, ce besoin, je vous le disais tout à l'heure, d'élévation, devient un cœur battant pour chacun.
Dernière chose qu'on peut préciser à propos de Lourdes, c'est que c'est, pour rappel, l'année 2019, c'est une année un peu particulière, c'est l'année Bernadette pour Lourdes, puisque c'est le 140e anniversaire de la mort de Sainte Bernadette. On va faire une première pause avec une musique extraite de Green Book, ou en tout cas d'un des personnages, Dr. Shirley, qui est donc, j'ai découvert, un pianiste, un musicien même de génie. Et puis après, on va parler de ce film Green Book.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ces films qui ont du sens, c'est pour rappel le thème de cette dernière émission, de ces derniers directs de l'année, avec autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, bien connu de nos auditeurs, et Gérard Dastugue, maître de conférence à la faculté de lettres de l'Institut catholique de Toulouse et enseignant en filmologie. Deuxième film qu'on a choisi, c'est donc Green Book de Peter Farrelly. L'histoire, comme d'habitude, on va écouter la bande-annonce, ça va nous mettre en bouche et après on reprécisera quelle est l'histoire.
Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur, ça t'intéresse ?
Je ne suis pas docteur en médecine, je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous ?
Les relations publiques.
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir ?
Vous, dans le sud ? Ça va causer des problèmes.
Promets-moi que tu m'écriras.
C'est promis.
Dites pas que ça sent pas bon, ça.
Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence.
Même les gens comme vous adorent le poulet frit.
Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony.
Ouais, je sais. Je suis un malin.
Nous allons fréquenter les personnes les plus riches du pays. Alors je pense que vos manières gagneraient à être plus raffinées.
Oh non, mais pourquoi vous me les voyez menus?
Parce que vous valez mieux que ça, monsieur Vallelonga.
Cher Dolores.
J'ai vu Dr. Shirley jouer du piano. C'est un génie, je crois.
Tenez, mangez un bout.
Je préfère ne pas mettre de gras sur ma tenue.
Ouh, je veux pas mettre de gras sur ma tenue.
Ce monsieur dit que je ne peux pas dîner ici.
J'ai bien peur que non.
Comment il fait pour rester aussi aimable?
Il faut du courage pour changer le cœur des gens.
Qu'est-ce que vous faites?
Une lettre.
Je peux voir. Cher Dolores, des fois tu me rappelles la maison. Vous êtes conscient que c'est lamentable? Prenez note. La distance qui nous sépare dévaste mon âme. Tomber amoureux de toi
a été la chose la plus facile du monde.
PS, embrasse les gosses.
C'est comme klaxonner à la fin de la 7e de Shostakovich.
Et c'est bien?
Parfaitement bien, Tony.
Sortez des voitures!
On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité.
Vous connaissez pas les vôtres? Vous, monsieur, je me la pète qui fait des concerts pour les Rupins.
Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi? Dites-le moi!
Tout le monde peut faire du Beethoven. Et votre musique, ce que vous faites, vous, y'a que vous qui pouvez le faire.
Et que fait-on avec les restes?
On fait ça.
Ramassez, Tony.
Les écureuils le boufferont de toute façon.
Ramassez.
Voilà, bande-annonce donc de ce film, bande-annonce un peu longue, c'est rare en fait d'avoir des bandes-annonces de 2 minutes 30, hein. C'est bien la preuve que ça tient la longueur.
Effectivement.
Dr. Shirley, maintenant Green Book donc, de Peter Farrelly, c'est donc l'histoire de la rencontre de deux hommes qui vont se lier d'amitié alors que rien, n'aurait pu les y conduire. Tony Lip, qui est un videur italo-américain du Bronx, donc à New York, et le docteur Don Shirley, histoire donc vraie, docteur Don Shirley qui est une espèce de génie, de prodige, pianiste noir de renommée mondiale, et en 1962, ce pianiste décide donc d'aller dans le sud des États-Unis pour, on va dire, pour faire la preuve par l'exemple qu'on peut être génial et noir. C'est presque comme ça que j'aurais envie de le présenter. Et ils ont donc un livre vert, Green Book, qui est le livre, et ça nous replonge dans une époque qui fait vaciller, ou livre qui indique les lieux où les personnes de couleur noire pouvaient aller dormir. Ça, c'est pour la présentation de l'histoire. On va dire que je l'ai présenté comme il faut. On va commencer avec vous, Gérard Astug. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film?
Ce qui m'a plu dans ce film, c'est que c'est d'abord un film qui est très très simple dans son traitement, dans son histoire. Alors effectivement, là sur le papier, on peut repenser, alors pour les plus anciens ou les plus cinéphiles, à Miss Daisy et son chauffeur, bien entendu, hein, auquel on pense très très rapidement. Mais je dirais que Green Book est plus intéressant, justement par cette simplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet appuyé. Je m'explique, c'est-à-dire que le scénario montre la simplicité avec une écriture qui est extrêmement fluide. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, des fois, vous avez des mises en scène qui ne se voient pas. Là, on a presque un scénario qui ne se voit pas. Effectivement, on a des acteurs qui sont très présents, qui sont absolument remarquables. Mais on a quand même une vraie fluidité de récit sur un, qui est presque une odyssée à deux, entre guillemets, dans les territoires du Sud, et où le récit classique des deux contraires qui vont se...
Et pourtant, il n'y a pas de grande surprise, en plus.
Il n'y a pas du tout de surprise.
Ça paraît cousu de fil blanc, mais...
C'est cousu de fil blanc, c'est les opposés, les contraires qui vont s'attirer, qui vont chacun se nourrir de l'autre, mais tout ça est traité avec beaucoup de simplicité. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'on parlait tout à l'heure de Lourdes, mais même le terme Green Book qui fait référence au livre, le livre on le voit très très peu. On le voit peut-être, il y a deux plans sur l'ensemble du livre. Donc le Green Book est un prétexte à avoir une expérience humaine entre deux personnages qui vont se retrouver ou évoluer par rapport à chacun à ses préjugés. De toute façon, il y a aussi les préjugés du lieu, les préjugés de la région, mais aussi les préjugés de chacun. Donc c'est aussi une élévation de chacun des deux personnages.
C'est peut-être ce qui fait rêver d'ailleurs justement, cette amitié improbable dont peut-être chacun rêve d'une certaine manière. Libération, un film édifiant au sens de ce que le conte moral a de meilleur. Bon sentiment compris, si difficile à rendre sans béatitude bête. On imagine que Libération est en général attentif à ce genre de détails. Le journal du dimanche adapté d'une histoire vraie, cette touchante chronique sur la tolérance résonne extrêmement fort et nous embarque dans un road movie grave et drôle porté par un formidable duo d'acteurs. Et puis le journal La Croix qui dit très impressionnant, en tout cas Tony Lip, et voilà, qui salue en tout cas la performance des deux acteurs. Il faut dire que c'est un film qui a reçu quelques prix aussi, Louis-Marie.
Bah oui, il a
trois Oscars,
un pour Mahershala Ali, l'Oscar du meilleur second rôle, et le film a obtenu l'Oscar.
Donc Mahershala Ali,
c'est le Don Shirley.
Oscar du meilleur film, du second rôle et du scénario.
Du scénario, Peter Farrelly. Peter Farrelly, d'ailleurs, qu'on n'attendait pas là, hein, puisque Peter Farrelly et son frère Bobby sont plutôt spécialistes, ont donné ses lettres de noblesse à une comédie typiquement américaine, hein, à savoir la comédie un peu grasse et un peu bas de plafond revendiquée. C'est eux qui ont fait Marie à tout prix, c'est ce qui les a rendus célèbres, ils ont fait Dumb and Dumber, Jim Carrey et Jeff... non, c'est pas Jeff Bridges, c'est...
Jeff Daniels.
Alors, c'est extraordinaire. Maintenant, on adhère ou on n'adhère pas à ce comique. Mmh. Et voilà Peter Farrelly qui vient tout seul titiller un genre où on ne l'attendait pas. Et finalement, on ne l'attendait pas et on aurait pu... peut imaginer là, puisqu'en fait c'est encore une fois des personnages décalés qui sont dans des situations qui correspondent un peu à celles des personnages qu'il a mis en scène dans ses comédies. Alors là, il obéit quand même à un code, à un format classique pour les films américains, à savoir le road movie, les deux personnages dont Gérard a parlé, à savoir deux personnages antinomiques qui vont se rencontrer. Et ce qui est le plus intéressant dans le film, c'est effectivement ce voyage et ce qu'ils vont faire pendant ce qui va arriver pendant ce voyage et comment finalement ils vont s'apprivoiser.
On va écouter un premier extrait, justement, qui dit un peu, qui signifie l'une des bascules qui se passe dans le film quand ils commencent à faire autre chose que se toiser ou se défier l'un de l'autre.
Cher Dolores, cher avec un E, sinon c'est un homme. Pendant que je t'écris cette lettre, je suis en train de manger des chips, et là, je commence à avoir une sacrée soif. Vous êtes conscient que c'est lamentable, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous voulez lui dire.
J'en sais rien. Je sais pas, qu'elle me manque, toutes ces conneries.
Alors dites-le. Mais faites-le d'une manière que personne d'autre n'a utilisée avant vous. Quelque chose comme... Veuillez écrire. Tomber amoureux de toi a été la chose la plus facile que je n'ai jamais faite.
Rien n'est plus important à mes yeux que toi. Et chaque jour qui passe me le rappelle. Je t'ai aimé dès le premier jour. Je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai... pour le restant de ma vie. Et je peux mettre un PS, embrasse les gosses?
Un PS?
Oui, genre après la fin.
C'est comme faire sonner une cloche à la fin de la 7e de Shostakovich.
Ouais, et c'est bien?
C'est parfait, Tony.
Voilà, donc là, c'est ces deux hommes qui commencent à devenir amis. Moi, ce que j'ai trouvé... je ne sais pas si c'est bien fait, puisqu'en l'occurrence c'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est ces deux hommes qui sont à la fois sympathiques et antipathiques. Je veux dire, il n'y a pas de bon et méchant, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et c'est peut-être en ça aussi qu'il y a derrière comme une leçon de vie. Ce sont des hommes qui n'avaient rien pour se compléter, et preuve qu'il faut parfois aller chercher loin pour arriver réellement à se compléter. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Gérard Astug?
Je dirais que si le scénario a été autant salué, je pense justement qu'il part de plusieurs choses. Alors effectivement, il y a ce qui est visible, c'est ces deux hommes. Je dirais le troisième personnage, c'est la voiture en fait. Le lieu principal, c'est la voiture, qu'on le veuille ou non. Une voiture qui va bouger, qui avait des paysages derrière qui changent, etc. Et puis il y a des moments de pure fulgurance. Mais ces deux hommes dans une voiture, ça m'a fait penser aussi à Tandem, vous savez, de Patrice Leconte. Les deux antinomiques qui se nourrissent l'un de l'autre. Mais ce qui marche très très bien, c'est que ça parle effectivement du Sud profond, ça parle de noir et de blanc, ça parle de lutte de classe qui à un moment donné est presque un mépris de classe, mais finalement ça ne l'est plus. Ça parle de deux personnes qui sont quand même avec des défauts un petit peu lourdingues parfois, avec leurs préjugés, et qu'on se plaît, qu'on se surprend à aimer au fur et à mesure.
Parce que Docteur Charlet est quand même très précieux. Là, on l'a
très précieux, très froid,
dans le passage,
il est glacial.
Voilà, très prétentieux même. Si
et Viggo Mortensen, on peut trouver au début qu'il en fait un petit peu...
Légèrement lourd.
Un peu lourd même dans le jeu de l'italo-américain, à la Scorsese.
Gras comme les frites.
Il est roublard. Il parle comme De Niro.
Ben oui, il fait une parodie de De Niro chez Scorsese, grosso modo. Ou même dans Mafia Blues, quoi. Voilà. Et puis finalement, ça passe. Au bout d'un moment, ça passe parce que, effectivement... les effets ne sont pas appuyés. Et la grande force d'un film aussi classique, qui en d'autres temps pourrait passer pour académique, passe justement par sa simplicité. Vous n'avez pas de musique larmoyante avec des grands violons qui vont venir appuyer des scènes ici. Du petit piano, presque à la Woody Allen, qui arrive et qui va donner une touche de légèreté comme 3 points de suspension.
Allez, on va écouter un autre extrait, puis on va voir ce qu'il y a comme musique derrière.
Pour reprendre l'expression de ma mère, est-ce que vous êtes devenu fou ? Regardez bien ces gars. Jetez un œil à l'officier que vous avez cogné. Regardez-le. Il est là à parader en racontant ses arrestations, pendant qu'il avale une tasse de café. Et vous, vous êtes où ? Assis là, avec moi, qui n'ai rien fait. Du coup, c'est moi qui en fais les frais, car c'est moi qui ne serai pas à Birmingham pour la représentation.
Et moi, je vais aussi perdre de l'argent si vous jouez pas à Birmingham.
Alors, ce petit accès de colère, ça valait tout ça ? On ne gagne jamais grâce à la violence, Tony. On ne gagne que si on peut garder sa dignité. La dignité l'emporte à chaque fois.
J'aurais dû préciser, donc, ils sont en prison parce qu'ils sont souvent arrêtés par la police sur la route. Et en l'occurrence, Tony Lip, qui est un peu rapide, on va dire, de la droite, à un moment, l'un des policiers traite de négro. Et puis il en rajoute une couche sur les Italiens. Et donc, ça part assez vite et ils finissent tous les deux au poste. Et d'ailleurs, ils sont libérés parce que le docteur Shirley, c'est semble-t-il, donc, puisque l'histoire a l'air d'être vraie, appelle le ministre de la Justice, qui est rien moins qu'un frère de...
C'est Bobby Kennedy qui l'appelle.
Voilà.
Le procureur général.
Donc on imagine à la tête des policiers, mais c'est pas le sujet. Alors pourquoi c'est un film qui a du sens, Louis-Marie Soler ?
Ah ben déjà pour tout ce qu'on a évoqué, ce qu'a dit Gérard Astuc, pour ces deux hommes avec lesquels on prend plaisir à être en voiture, finalement, et parce qu'ils sont crispants tous les deux, mais finalement on est bien avec eux. Et ce qu'on a souligné aussi, c'est que on s'attend à tout ce qui va leur arriver, mais finalement, on est surpris. On s'attend à un groupe de blancs qui cogne le noir. On s'y attend, on se dit, ça va arriver, sûrement. Mais voilà, ça arrive, mais on est surpris. Comme on s'attend au traitement des flics.
Est-ce que c'est justement qu'on rêve pas tous, en fait, d'amitié improbable comme ça, qui nous sorte, que le cinéma devienne réalité ?
Exactement, très, très probablement, parce que finalement, on les envie. Parce qu'on les envie, ils sont finalement... À force du voyage,
ils sont heureux
d'être ensemble tous les deux, au point que quand ils vont se séparer, ça va être difficile pour eux. Et on va pas en dire plus, mais c'est bien. Et puis, ce qui est aussi touchant, c'est que finalement, la femme de Tony Lip a tout compris. Elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus maligne que son mari. Elle le connaît bien, son mari. Elle l'aime beaucoup. Et elle le trouve encore plus beau et plus aimant qu'elle ne l'a laissé au début. Et ça, c'est fort.
Gérard Astuc, pourquoi c'est un film qui a du sens et qui est, pourquoi est-ce un très bon film, vous diriez, puisque c'est la thématique de notre jour, ces films qui ont du sens.
Parce que ça parle de l'humain. Et je dirais qu'un autre point aussi qui est traité dans le film, c'est que chacun est le mentor de l'autre à un moment donné. Et ça, c'est... C'est le grand luxe. Dire un mentor, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vous apprend, c'est quelqu'un qui vous protège. Et si les gens réservent du succès à ce type de film, c'est bien que voilà, on recherche ça. Et on le recherche à plusieurs. C'est-à-dire que c'est pas simplement ponctuel, c'est pas que sur nous. On se dit que pour que ça soit bien sur nous, il faut que ça soit sur tout le monde. et on est le troisième passager de la voiture. C'est-à-dire que la caméra, très souvent, elle est à la place du mort, entre guillemets. Elle est à côté de Tony Lip, et puis elle fait des allées-venues, ou même simplement sur un seul plan, où on voit ces chassés-croisés de regards, c'est presque ces jugements, l'un qui se moque de l'autre, l'autre qui le toise un petit peu avec une certaine froideur, puis une froideur qui va se réchauffer, qui va se tiédir.
Et après, des regards pleins de tendresse. Hein.
Et plein de tendresse.
Plein de tendresse entre hommes.
Tout à fait. Et c'est vraiment... C'est une histoire d'amitié qui se crée devant nos yeux. Et là aussi, le fait que ça soit, je pense, cousu de fil blanc participe du succès du film. Parce qu'on se dit, voilà, on est en terrain totalement balisé, quoi. Donc, on sait ce qui va se passer, effectivement. Ils vont se faire frapper, ils vont se faire arrêter, ils vont se gueuler dessus, etc. Mais effectivement, on est content parce qu'on est... C'est un cinéma qui est rassurant, mais dans le vrai sens humain du terme. C'est-à-dire qu'il n'est extrêmement, il n'est pas du tout, je dirais, il n'est pas si calibré Hollywood que ça, en fait. Et c'est d'autant plus étonnant de la part de Peter Farrelly.
Parce qu'il parle aussi de ce qu'est l'Amérique maintenant. Parce qu'on est en 62, mais c'est l'Amérique de Trump aussi qu'il questionne en faisant un film comme celui-là. Et ce qui est remarquable, il y a deux choses remarquables dans le film, dans l'évolution des personnages, c'est la façon dont le film commence. Quand on arrive dans l'appartement de Tony Lip, il y a tous ses copains qui jouent aux cartes, et il leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» On n'allait pas laisser ta femme avec les deux plombiers. On ne sait pas trop pourquoi, parce que ces deux plombiers sont noirs. Et la femme de Tony Lip les accueille, leur donne une citronnade, un rafraîchissement. Et après leur départ, Tony va prendre les deux verres et les jeter à la poubelle. Et le docteur Shirley, Don Shirley, accueille Tony sur un trône. Et l'un et l'autre, eh bien, l'un enlèvera les... De façon... comment dire, métaphorique, enlèvera les deux verres de la poubelle et l'autre descendra du trône. Et là, le film est réussi.
Voilà, Green Book, un beau film, très beau film à voir, donc de Peter Farrelly, 3 Oscars, combien même il n'aurait pas eu des Oscars, un très beau film. On va faire une deuxième pause musicale, et puis on va vous retrouver pour La Voix du Pardon, et la pause musicale en l'occurrence, c'est le titre c'est pas un best-seller qu'on appelle ça déjà. Bref, d'une musique d'un morceau qui a cartonné aux États-Unis de Bart Millart, qui est un peu la trame de ce film, La Voix du Pardon.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine.
Présence.
Emmanuel Pella.
Ces films de cette année qui ont du sens, c'est le thème donc de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, autour du plateau, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Gérard Dastug, maître de conférence à la faculté des lettres de l'Institut catholique de Toulouse et enseignant en filmologie. Dernier film, donc, c'est La Voix du Pardon, en tout cas en français. Titre original, en fait, ça reprend le titre original, reprend le titre de la chanson
qu'on vient d'entendre.
I Can Only Imagine, qui est donc, semble-t-il, un énorme carton aux États-Unis, puisque je crois qu'ils ont été numéro 1 pendant longtemps dans la musique chrétienne.
La musique chrétienne, et même tout genre musicaux confondus, elle a été très bien classée. Pas première pour les musiques chrétiennes, mais elle est montée très haut dans les charts. C'est comme ça qu'on dit, avant on disait hit parade.
Voilà. Le film est inspiré donc de l'histoire vraie de Bart Miller et de son groupe les Mercy Me. L'histoire donc d'un jeune garçon plus que maltraité par son père, et puis de son chemin personnel, de son chemin de rédemption, puisque c'est un film confessant, comme on dit. Vous allez en parler. Ça fait partie de ces films qui viennent des États-Unis, qui sont distribués distribués en France par Sage Productions. Voilà, film qui parle de la foi de manière explicite, comme si c'était une chose tout à fait naturelle que de parler de Dieu, que de parler du Christ. Donc c'est assez inattendu sous certains aspects. On va commencer par écouter la bande-annonce, pareil, et puis après on va parler de ce film.
C'est une chanson extraordinaire.
Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes.
Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient.
Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, la vie était dure.
Où est maman ?
Elle s'est tirée d'ici. Elle veut plus de moi.
Stop !
Elle veut plus de toi non plus.
J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir.
Je suis épaté, ça n'est pas sa vraie voix que j'entends.
Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa.
Non, tu ne peux pas. Quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que tu auras voulu poursuivre un rêve absurde.
Je m'en vais, Shannon.
Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras.
Qu'est-ce que tu essaies de fuir ?
Mon père.
Alors écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration.
Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson.
T'as faim ? J'ai mis la table.
Voilà donc pour la bande-annonce donc de La Voix du Pardon, donc des frères Erwin. Alors on va jouer, on va dire, carte sur table avec les auditeurs. On s'est dit que ça serait bien de parler de ces films, on va dire, confessants. On va dire pour le coup, par contre, le retour, je sais pas si c'est le retour presse, en tout cas le retour de nos deux messieurs cinéma est plus mesuré. Qu'est-ce que vous nous diriez, Richard Dastug, pour commencer à les
Gérard,
commencer
Gérard
Dastug, pardon, commencer par les qualités
les
de
qualités.
Ce film.
Alors, qualité, je dirais qu'il y a presque une qualité ethnologique, entre guillemets, parce que c'est un film qui va être révélateur de ce grand mouvement des faith-based movies, c'est-à-dire les films basés sur la foi, hein, qui sont presque un genre, alors c'est même pas du crossover, c'est un genre en soi, qui sont en train de déferler depuis les États-Unis, qui inondent un petit peu le marché. Et qui parle de foi, qui parle d'individus qui se retrouvent, ses confessants.
Qui rencontrent Dieu.
Qui rencontrent Dieu.
Qui se convertissent.
Ses confessants, c'est culpabilisant, c'est chargé en pathos. Ce sont des histoires de cheminement personnel, de presque de réhabilitation de liens familiaux, etc. Et comment.
Rédemption, comme
de rédemption. Le mot apparaît énormément dans le film, hein, de rédemption, et comment la foi, la spiritualité, Dieu permet justement d'accélérer ce cheminement personnel, c'est-à-dire Le titre, c'est La voix du pardon. On pourrait écrire voix de plusieurs manières, mais c'est chacun trouve sa voix à travers un artiste ici, en devenir, qui trouve sa voix, qui va l'amener aussi à pardonner, puis à poser les valises de son roman familial à un moment donné.
Histoire vraie, il faut le dire aussi.
Histoire vraie, voilà. Je pose mes valises, mon roman familial, j'en fais partie, mais il m'avale, il m'engouffre petit à petit. Je pose mes affaires et le pardon va me permettre de me libérer, de m'élever et d'aller un petit peu plus loin dans ce pourquoi je suis apparemment fait et pour lequel je démontre certains talents.
Alors si pour vous il peut y avoir au moins un intérêt ethnologique, si on va jusqu'au bout de cet intérêt ethnologique, c'est aussi la découverte de la place que la musique chrétienne a aux États-Unis, puisque ces morceaux, c'est pas des morceaux confidentiels ou marginaux comme chez nous, c'est des énormes cartons et qui nourrissent la vie des gens, y compris donc la vie de foi.
Oui, parce qu'on est au Grammy, on a vraiment une catégorie musique chrétienne, rock chrétien, pop chrétienne.
Etc. Même métal.
Oui, même métal chrétien, tout à fait.
White metal.
Voilà, très très gros succès en tout cas aux États-Unis aussi pour le film. Hein. Le film a récolté près de 84 millions de dollars pour un coût, pour un budget de 7 millions. On disait que du coup ça faisait quoi, 1500%, c'est ça?
Oui, ça a été calculé, 1509% de rentabilité.
Et ses frères Erwin, Louis-Marie, j'imagine que c'est pas d'abord les films des frères Erwin que vous regardez tous les samedis soirs, mais quand même, est-ce que vous nous en parlez un peu?
La question est pas là. La question, pour en revenir juste avant de parler des frères Erwin, c'est on a calculé la rentabilité, on vient d'en parler, savoir combien a coûté le film et combien il a rapporté. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi que les Américains et ceux qui produisent ce genre de films pensent à la rentabilité avant tout, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un public. C'est-à-dire qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que nous, hein, en France.
Et, on peut imaginer que leur seule intention n'est pas la rentabilité non plus.
Si, parce que... Enfin, pas que, j'espère que non. Mais en tout cas, ils savent qu'il peut... Ce film, s'il marche dans ce qu'on appelle la Bible Belt, ça leur suffit parce que ça fait pratiquement le tiers, un gros tiers, même pratiquement la moitié des États-Unis. Rien qu'avec ce public potentiel, ça suffit. On peut se dire que s'ils investissaient un peu plus, si le budget pour réaliser le film était un peu plus important, il serait nécessairement mieux ficelé, ne serait-ce que pour des détails de mise en scène, de savoir de tournage, de décor.
Alors vous avez demandé quand même de commencer par les qualités. Donc
non, mais justement.
On peut imaginer déjà que les frères Erwin ont monté cette boîte de production.
Ce que je veux dire, par là, c'est... Ça va justement à leur décharge, si on pouvait dire. C'est qu'ils bénéficient d'un budget restreint. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ça, là, c'est important quand même. S'ils disposaient de plus, ils pourraient faire plus, mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils réussiraient. Parce mais que, en tout cas, ils pourraient faire beaucoup
parce
mieux.
Parce que 7 millions de dollars, c'est rien pour un film.
Ah ben non, c'est rien du tout. Non. Non mais franchement, 7 millions de...
Un budget moyen, c'est quoi pour un film
Même en France.
Mais enfin, 7 millions, c'est un petit budget, c'est un film d'auteur.
7 millions,
hein.
7 millions d'euros, c'est rien du tout.
C'est un film d'auteur en France. Hein.
Ouais, et on parle des films du milieu, justement, ceux qui n'ont que 20 millions en France et qui, ça représente quand même de l'argent. C'est à partir de 50, 60 qu'on peut considérer que c'est quelque chose, un budget qui commence à être confortable. Mais pour en revenir aux frères Erwin, ils ont réalisé des films qui sont il y a une comédie, il y a deux films sur la foi aussi, je parle de mémoire où la foi est mise en avant, mais
c'est des spécialistes du genre en l'occurrence.
Ils font plus dans ce genre-là, mais il y en a un des deux qui a plus réalisé que l'autre, hein, c'est Andrew, parce que là aussi il y en a un qui est plus âgé que l'autre, donc il a commencé plus tôt.
Alors, j'avoue que moi, j'ai trouvé comme vous qu'il y avait des lourdeurs. Après, je suis beaucoup moins cinéphile, mais c'est aussi, je pense que certains auditeurs aiment ces films. C'est des films qui font du bien quand on est croyant, parce que ça parle de Dieu de manière décomplexée, et puis l'histoire est simple, ça peut presque se voir en famille, et se voir aussi comme une leçon de vie touchante. Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble presque à des séries, en fait? On pourrait regarder ces films-là comme on regarde des séries télé, non? C'est Louis-Marie, je vois sceptique.
Ce dont parlait Gérard, on parlait de baliser pour Green Book. Ce film aussi, là, est balisé. Et pourtant, ça fait... l'effet n'est pas le même. L'effet produit n'est pas la même chose. Comme aussi l'un et l'autre sont des films inspirés par une histoire vraie. Maintenant, en plus, je ne parle pas seulement pour ces deux-là, mais c'est devenu un gage de qualité. Mmh. À partir du moment où on met sur une affiche inspirée d'une histoire vraie, ça suffit pour lui donner une caution.
Mais c'est vrai que c'est quand même une belle histoire, je veux dire.
Non, non, mais je dis pas le contraire, mais on attire le public en mettant, en estampillant comme ça. Mmh. Ça, vous voyez, c'est une histoire vraie et ça va vous émouvoir.
Vous allez voir. Hein,
vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, pour deux choses très balisées, pour l'un, on était surpris, pour l'autre, beaucoup moins.
Ah oui, clairement.
Et pour l'autre, beaucoup moins. Néanmoins, le film, tout en suivant ce balisage, le suit bien et nous amène, là, pour utiliser des termes techniques, l'acmé, le climax du film, étant la fameuse création de cette chanson, et c'est le point d'orgue du film, qui en l'occurrence est la fin.
Donc ça serait quoi? Au moins un film pour adolescents chrétiens Ah là là, décidément.
C'est très compliqué, parce que effectivement c'est très très balisé.
Je vais finir par me sentir mal avec Sage Production.
Non, c'est très balisé, mais après le film est propre, bien fait, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très bien interprété, c'est sans grande surprise.
Alors pourquoi ça a du sens?
C'est un feel good chrétien, quoi, j'ai presque envie de dire. C'est du feel good chrétien, ça conforte dans sa foi, ça interroge fort peu, alors que justement on parle du Green Book. Green Book est beaucoup plus subtil. Là, effectivement, on est sur... On est aussi sur des autoroutes.
On a l'impression que c'est facile. C'est facile pour ce garçon. Et finalement, il va y arriver, il va pardonner. Et c'est difficile. Comme le dit justement Amy Grant, qui est une chanteuse...
Une star américaine.
Une star américaine.
De
la pop louange chrétienne. Quand il lui dit, j'ai mis 10 minutes, on l'entend d'ailleurs dans la bande-annonce, j'ai mis 10 minutes pour écrire cette chanson. Elle lui dit, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. C'est ça, c'est dur ce qu'il a vécu. C'est compliqué ce qu'il a vécu. Il en est sorti grâce à sa foi, grâce à Dieu. Et
il le traduit en musique.
Il le traduit en musique. Et c'est ce qui rend le film... pour lequel on adhère à ce film. C'est la raison pour laquelle on adhère à ce film. Je m'embrouille un peu.
Allez, puisqu'il reste 2 minutes et qu'on va essayer de finir sur une note plus positive, si vous deviez sortir de votre chapeau à chacun un film que vous avez vu cette année, à rajouter, on va dire, dans le programme de d'été de nos auditeurs, Louis-Marie, lequel vous sortiriez?
Ben, on parle de films spirituels et chrétiens. Je pense à L'Apparition. Et L'Apparition avec Vincent Lindon, un type qui est un journaliste...
C'est vrai qu'on aurait pu choisir celui-là. Oui.
Grand reporter à qui on demande de faire partie d'une
commission pour
vérifier,
pour certifier ou pas une apparition.
Une apparition, s'il y a un miracle ou pas. Enfin, une apparition en tout cas.
Et le film ne prend pas parti, mais il laisse en suspens la question.
Et justement, ils ont choisi délibérément... un homme, un journaliste qui a besoin de quelque chose de très précis et très carré, le type qui vérifie ses informations. Et lui, il va tout vérifier, il va aller au fond des choses et c'est lui finalement qui... là aussi...
Qui ressort presque le plus transformé.
Exactement.
Gérard Astugue, un film à sortir de votre chapeau?
Alors, j'ai pas vu énormément de films cette année, mais je vais en sortir deux très rapidement.
Qui parle
d'enfance. Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, où je trouve le gamin absolument incroyable, qui est un film assez intéressant, qui est passé assez inaperçu. Puis pour rester dans une forme de chauvinisme toulousain, ça sera un film d'animation. C'est Terra Willy des studios TAT Prod, qui est un très très joli film d'animation avec un enfant qui se retrouve tout seul sur une planète inconnue parce qu'une pluie de météorites a détruit le vaisseau où il était avec ses parents. Donc il se retrouve tout seul, isolé, avec un robot qui est programmé pour le protéger, encore un mentor. Et c'est un très très joli film d'animation et vraiment familial et là aussi d'apprentissage et d'élévation.
Eh ben merci beaucoup à vous de nous avoir fait cette balade cinématographique pour clore cette année. Un grand merci. Rendez-vous est donc donné aux auditeurs, en tout cas pour les directs. Ça sera la première semaine de septembre. Merci beaucoup et bon été à tous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en septembre prochain.
Thank you.